Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. Paris est une fête, écrivait Hemingway. Mais si la capitale française est considérée comme une des plus belles villes du monde, elle est aussi le théâtre de tensions nationales, partagées aussi à l'international. Terrorisme, drogue, sectarisme, migration, violence policière, autant de conflits multipliés à l'infini à l'heure des réseaux sociaux et du tout info. Et si face à ce déferlement d'images, de notifications, de breaking news, de fake news, c'était la fiction qui pouvait nous aider à y voir un peu plus clair dans ce monde à la fois réel et virtuel et nous le faire comprendre de l'intérieur. Bonjour Negar Djavadi.
Bonjour.
Ce monde contemporain, vous avez décidé de le prendre justement à bras-le-corps dans votre deuxième roman, paru aux éditions Liana Levy sous le titre « Arène », comme au temps des Jeux du Cirque à Rome où, pour survivre, tous les coups sont permis. « Arène » qui ici est la radiographie, la cartographie même de notre société occidentale à travers l'histoire d'un quartier qui prend feu, un lieu situé à l'est de Paris où sur 4 arrondissements, vos personnages vont en l'espace de quelques jours vivre un grand bouleversement qui va finir en émeute. Pourquoi, Negar Djavadi, avez-vous choisi de placer votre action dans cet endroit précisément? Est-ce que, selon vous, il est emblématique en effet d'une situation géopolitique et historique en particulier?
Il est absolument, c'est le cas. Mais la première raison, c'est que j'habite dans ce quartier. Donc, c'est un quartier que je connais extrêmement bien. Ça fait plus de 20 ans que je vis là. Donc, j'ai bougé à l'intérieur, j'ai déménagé 3-4 fois. Mais en restant toujours dans ce triangle Belleville, Colonel Fabien, Jaurès, qui est dans le livre. Donc, c'est un quartier que je connais bien, que j'ai vu changer. J'ai vu la violence arriver. J'ai vu des gens partir, d'autres arriver, des migrants arriver, des migrants partir, des camps être démantelés. Donc, c'est un quartier qui bouge énormément avec effectivement tout ce que vous avez cité, c'est-à-dire la drogue, des junkies, une violence sourde entre les communautés, même si c'est pas vraiment des communautés parce que c'est pas structuré comme tel. Néanmoins, il y a d'un côté les Chinois, il y a d'un autre côté les Arabes, il n'y a pas vraiment de frontières, mais ça se fréquente pas non plus. Donc, il y a tout ça que je traverse au quotidien et qui me traverse aussi au quotidien d'ailleurs. Et puis, il y a le fait qu'il y a pas mal d'événements qui ont eu lieu dans ce quartier, entre autres le Bataclan, les attentats, les frères Kouachi qui sont passés par là et qui ont abandonné leur voiture rue de Meaux. Donc c'est un quartier qui est aussi un peu meurtri, qui a été nommé le No-Go Zone par Fox News, ce qui nous a fait beaucoup rire à l'époque. Il y a même des gens qui s'étaient fait des t-shirts avec No-Go Zone écrit dessus. Et puis historiquement, c'est vrai que ce quartier a aussi une histoire assez sanglante et assez sordide à cause d'un monument incroyable qui est le gibet de Montfaucon, qui était une sorte de cube comme ça immense où on pendait les gens, parfois jusqu'à 60 corps, et ça a duré pendant 6 siècles. Et il y avait une sorte de trappe en dessous où les corps pourrissaient et tombaient. Et on a longtemps dit que le quartier était hanté par le bruit des gens, par le bruit des chaînes et les larmes des gens qui venaient rendre visite aux pendus.
Et c'est donc là, à la fois dans ce vivier et aussi, comme vous venez de nous l'expliquer, Negar Djavadi, ce territoire traversé par des siècles de violence, c'est donc là qu'est découvert le corps d'un jeune garçon sans vie sur un des quais de la Seine. Une mort qui, en fait, répond à celle d'un autre garçon, quelques jours plus tôt, qui, elle, est passée inaperçue. Mais là, la différence, c'est que, une policière va lui donner un coup de pied pour le secouer, parce qu'elle ne sait pas encore qu'il est décédé. Et deux, une adolescente va filmer cette scène, la poster sur les réseaux sociaux, et là, tout va partir en vrille. Et votre roman raconte avec une formidable énergie la succession des rencontres, des malentendus, des peurs, des haines qui vont allumer cet immense incendie. Une histoire qui pourrait être un documentaire, mais qui, sous votre plume, est une vraie fiction. Mais je me demandais, qu'est-ce qui vous intéresse, vous, comme romancière dans cet engrenage que vous décrivez étape par étape.
Ce qui m'intéresse et ce qui était même à l'origine de ce livre, c'était cette espèce de constat que je fais un peu au quotidien, que la réalité est enfouie sous la fiction, sous les récits qu'on nous raconte, que ça soit les réseaux sociaux, que ça soit les chaînes d'infos en continu, que ça soit même des politiques ou des gens qui passent, qui ont leur micro et qui parlent. Donc c'est l'enfouissement de la vérité. Et d'ailleurs, l'histoire de ce garçon, on va pas savoir jusqu'au bout du roman qu'est-ce qui s'est passé et qui est responsable et qu'est-ce qui lui est arrivé. Donc on va comme ça naviguer avec les rumeurs qui arrivent, avec les images qui arrivent et qui vont venir peu à peu enterrer la vérité. Et il n'y a pas d'enquête policière parce que c'est pas un polar. Donc il n'y a pas non plus cette espèce de fil qu'on pourrait tirer de l'enquête. Et on va être nous aussi comme le personnage principal qui est Benjamin Grossman, qui se demande si c'est pas lui qui a tué cet adolescent-là. On va être un peu comme lui, c'est-à-dire on va se dire mais où est la vérité et on va pas savoir.
Voilà. Alors effectivement, où est la vérité, ça personne ne le sait. D'où j'imagine ce parti pris littéraire que vous choisissez, Negar Javadi, c'est-à-dire de raconter par une dizaine de personnages de tous âges, de toutes origines, milieux sociaux différents, avec en tête donc ce protagoniste, Benjamin Grossman. Il a 35 ans, il est salarié d'une grosse entreprise américaine, plateforme de séries et de films comme Netflix, pour la citer. A priori, c'est un homme qui a réussi et qui se trouve embarqué dans ce roman, encore une fois, qu'on ne lâche pas, hein, qui nous tient en haleine, qui monte comme une tragédie ou crescendo comme un air d'opéra. Mais qu'est-ce que lui incarne pour vous, Negar Javadi?
Pour moi, il incarne d'une part la réussite et cette obligation de performance aussi, parce que lui-même est très habité par la peur de ne pas être à la hauteur de la responsabilité qu'on lui a donnée d'être effectivement à la tête de la fiction française de cette plateforme-là qui s'appelle BeCurrent. Il se sent même fliqué par les Américains. Donc il y a cette obligation de performance, il représente la réussite et il représente aussi ce monde de la fiction qui est d'une certaine manière un monde qui pour moi aujourd'hui vaut un peu le banquier d'autrefois, la figure du banquier ou la figure du trader d'autrefois, qui était un peu dans les romans comme ça, des fresques sur des villes où il y avait ce personnage qui représentait l'argent. Donc lui représente l'image et c'est un peu le cœur de ce livre, c'est ces images. Qu'est-ce qu'on en fait de ces images? Il y a l'image qu'on envoie sur les réseaux sociaux, il y a aussi les séries qui s'emparent des réalités et qui en font des fictions où en les regardant on croit que c'est vrai. On a l'impression que c'est comme ça que ça s'est passé parce qu'on l'a vu dans une série. Donc voilà, il représente ce monde de l'image qui nous entoure et qu'on a du mal parfois à décoder.
Et c'est aussi l'homme qui revient, puisque en effet, lui, il est originaire de ce quartier où vit encore sa mère, qui a d'ailleurs une profession très intéressante et sur laquelle on va revenir. Mais il a un peu oublié ses origines populaires, ses origines modestes. Donc il est aussi un peu à distance. Et d'une certaine façon, c'est peut-être pour mieux nous identifier, nous lecteurs, qui ne faisons pas partie de ce quartier.
Oui, il est la porte d'entrée. C'est-à-dire, il est de là, sans être de là. Comme nous, en fait, même les Parisiens, il y a plein de Parisiens qui connaissent pas ce quartier, qui ont des échos de ce quartier, mais qui connaissent pas ce quartier. Donc, on rentre avec lui dans l'histoire et on le suit. Et il revient dans ce quartier. Il a pas envie de revenir là, parce que voilà, il est très occupé, il dit tout le temps à sa mère qu'il n'a pas le temps. Mais là, il est obligé parce que la mère l'a appelé pour lui donner ses affaires, parce qu'elle loge un Afghan et elle a besoin d'espace. Elle a un petit 3 pièces dans ce quartier, donc elle n'a pas assez d'espace. Et il revient quelque part malgré lui et il se fait embarquer dans la réalité de ce quartier. Lui qui est un homme de fiction, lui qui fait de la réalité une fiction, le voilà non seulement dans la réalité, mais cherchant cette vérité qu'il n'arrive pas à trouver.
Et un peu comme dans une toile d'araignée que vous mettez en place avec donc au centre la mort du jeune homme, vos personnages sont reliés par un fil invisible, mais font partie du même drame qui se prépare. Un travailleur chinois et sa famille, Sam, c'est son surnom, jeune femme policière d'origine turque, Camille, vidéaste amateur, Amir, réfugié afghan, Cathy et Ariane, mère et femme respectives de Benjamin, et j'en oublie. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire un récit choral? Est-ce que c'est aussi pour montrer qu'il n'y a pas une seule façon de voir le même événement, contrairement à ce que les informations et les chaînes d'infos en continu nous montrent, puisqu'on voit toujours quasiment les mêmes images et les mêmes angles et les mêmes points de vue?
Absolument. C'est l'impact de cet événement sur la vie des gens très très différents des uns des autres. Donc c'est chacun est impacté d'une manière différente par ce qui se passe, soit responsable, par exemple Camille qui envoie cette vidéo, soit absolument pas responsable comme Cathy qui est la mère de Benjamin et elle vit dans ce quartier, donc elle va assister à l'embrasement, elle va perdre Amir, le jeune Afghan qui vit chez elle. Donc c'est en fait ça, c'est une sorte de projection qui vient embraser la vie de tous ces personnages aussi, tout autant que le quartier. Et c'est aussi parce que Paris, il y a une foule impressionnante dans cette ville, et il fallait quand même, si j'avais ce projet d'écrire sur Paris, donc il fallait qu'il y ait pas mal de monde, il fallait rendre la densité de cette ville, le bruit de cette ville, ce côté jungle de cette ville, voilà, donc il fallait beaucoup de monde.
Et comment vous vous êtes nourri de... pour raconter ces personnages, dans la rue, de votre fenêtre, dans un café, vous les côtoyez, j'imagine, régulièrement peut-être, ces personnages?
Oui et non, parce que en fait, il y a quand même une intrigue à tenir. Donc, il fallait qu'ils font à la fois partie de mon imaginaire, des gens que je vois, oui, mais à la fois, ils devaient correspondre aussi à l'intrigue. Donc, pas vraiment. Je les ai un peu tricotés à ma sauce, à ma manière, pour qu'ils arrivent à s'insérer dans cette histoire-là que j'avais en tête avant qu'ils existent. En fait, j'avais ce mouvement en tête d'un Paris qui s'embrase. Donc, ils sont venus derrière ce mouvement.
Et ce qui est fascinant, c'est de voir sous votre plume combien chacun, chacune a ses convictions, ses priorités, son fils, son téléphone, son boulot, son image, ses likes, sa place dans la société. Même la femme politique croisée dans votre roman a l'air plus intéressée par sa visibilité sur les réseaux que la réalité de son quartier. Est-ce que ce livre pointe aussi en creux l'absence du politique sur le terrain et l'abandon des populations, Negar Djawadi?
Mais absolument, absolument. D'ailleurs, cette femme politique qui vient, elle ne regarde pas vraiment le quartier. Parce que ce quartier, pour qu'il soit dans cet état-là, parce qu'il n'est pas en très bon état, il y a énormément de drogue, il y a énormément de violence dans ce quartier. Et pour qu'il soit dans cet état-là, et on parle d'un quartier de Paris, et on n'est pas en banlieue en train de dire ces fameux quartiers dont on parle, qui sont de l'autre côté des périphes, et d'ailleurs on les connaît pas, c'est des zones comme ça. Non, là on est quand même en plein Paris. Et il y a autant de précarité, de troubles, de violence, et il faut que personne s'en occupe pour que ça soit dans cet état-là, et c'est absolument le cas. Maintenant, effectivement, il y a des aménagements d'un stade, des rues, des pistes cyclables, mais ça ne change pas le fondement même du fait qu'il y a énormément de gens qui vivent là et qui ne savent pas comment vivre ensemble, même s'ils vivent ensemble. Donc ça ne change pas, c'est pas en créant des pistes cyclables qu'on change ça. Et donc de ce point de vue-là, oui, il y a un abandon, oui.
Je parlais d'opéra tout à l'heure, et en effet, vous avez construit votre roman en plusieurs temps. Prélude, moderato, crescendo, furioso, à l'image de cette musique que vous aimez, un compositeur en particulier.
À l'image de la musique classique, il est vrai, et d'ailleurs, je cite Vivaldi à la fin, mais il y a dans la musique classique ces mouvements qui s'enchaînent et qui donnent un peu le tempo, le rythme, et on avance et on attend aussi la suite. On se dit, mais qu'est-ce qui va se passer après moderato, mais qu'est-ce qui va arriver, et ça monte, et ça monte, et ça monte. Et c'était surtout ça, c'était cette attente chez le spectateur et ce mouvement que j'avais envie de préciser avec ces titres de chapitre.
Littérature sans frontières.
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI avec aujourd'hui Negar Djawadi, avec qui nous feuilletons son deuxième roman, Arène, paru aux éditions Liana Levy. Un roman très urbain, contemporain, noir, traversé par les peurs, les violences, et aussi une réflexion sur le réel qui se dissout de plus en plus au contact du virtuel, à l'image de vos personnages qui soit travaillent dans le cinéma, les séries, soit écrivent, soit sont obnubilés par leur image, justement à la télévision ou sur les réseaux sociaux. Dans ce monde qui se met en scène lui-même, quelle est alors la part de la fiction? Et c'est une question que vous abordez, Negar Djawadi, en écrivant par exemple que, je vous cite, « Le roman a considérablement perdu de son importance au XXIe siècle. La preuve, pas mal de romanciers préfèrent être adaptés plutôt que de recevoir un prix littéraire. » Fermez les guillemets. Est-ce que c'est un avis en effet que vous partagez?
C'est ce que dit un des personnages qui s'appelle Benjamin Grossman, qui travaille pour une plateforme américaine. Donc, il est tout à fait, il est prêche pour sa boutique en disant ça. Ce n'est pas un avis que je partage complètement, mais il est vrai que il y a l'arrivée des séries au XXIe siècle, la multiplication des plateformes, ça a quand même pas mal changé notre rapport à la fiction et notre rapport au récit. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile de mettre la télé que de lire un roman, ça prend beaucoup moins de temps, on peut l'arrêter quand on veut, reprendre, revenir en arrière.
Un roman aussi, hein.
Un roman aussi.
On peut l'arrêter, reprendre, revenir en arrière.
Mais pas aussi facilement que pour aller chercher un verre d'eau et revenir. Voilà. Donc, mais on peut revenir en arrière aussi dans un roman, c'est vrai, mais c'est pas pareil, c'est quand même lourd un roman à trimballer dans le métro. Mais c'est ce rapport-là qui a changé. Mais c'est vrai aussi que je vois régulièrement, parce que je suis aussi scénariste, les romans qui sont adaptés et les romanciers qui ont très envie que leur roman soit adapté. Et il y a quelque chose aussi chez les romanciers eux-mêmes. Une envie de voir leur histoire rejoindre ce mouvement incroyable né avec les séries.
Donc on a tous besoin, et les écrivains aussi, de reconnaissance.
Sans doute de reconnaissance et aussi...
Et de toucher grand public peut-être, ou du moins en avoir l'illusion.
Probablement, il y a probablement quelque chose qui est de cet ordre-là, mais aussi il y a quelque chose de l'ordre du rêve à cet endroit-là, et ce qui devient possible. Faire une série sur Netflix ou faire une série sur une plateforme américaine, c'est un peu le même rêve que Hollywood. Donc, si on peut rentrer dans ce rêve-là, eh ben pourquoi pas, oui.
Ariane, prénom ô combien littéraire, et d'ailleurs il m'a semblé voir de nombreuses références plus ou moins dissimulé ici et là à des écrivains. Grossman, évidemment, c'est David Grossman, le grand écrivain israélien, par exemple. Donc Ariane, chère à Monsieur Cohen, la femme de Benjamin, écrit un roman qui lui a été inspiré par, dit-elle, la mort d'un migrant noyé sur une plage. Est-ce qu'en effet, les écrivains doivent s'inspirer de cette réalité tragique, selon vous, Negar Djawadi?
On vit dans ce monde-là. Maintenant, est-ce qu'ils doivent s'inspirer de cette réalité? Je n'en sais rien. Ils s'en inspirent. Il y a eu quand même énormément de livres qui sont sortis et même de films sur la tragédie des migrants. Et ça fait partie des tragédies de notre époque aussi. Peut-être parce qu'on n'en vit pas nous-mêmes, on n'en vit pas de cette ampleur-là en Occident. Et en même temps, on est face à quelque chose où on a besoin et envie d'apporter une réponse. Donc, fatalement, celui qui écrit ou celui qui fait des films va aller vers ce genre de tragédie, essayer de l'interroger, essayer de comprendre sa place aussi par rapport à ces tragédies-là. Donc, c'est ce que fait Ariane. C'est-à-dire, elle est interloquée par une photo, la photo de ce migrant qui est en train de mourir sur une plage. Et voilà, elle essaye d'écrire là-dessus parce que c'est une photo qui touche notre humanité à tous. Et ça interroge.
Donc, la réalité, aussi tragique soit-elle, peut devenir fiction.
La réalité devient fiction, d'autant qu'elle est tellement, surtout ces images-là, sont tellement énormes, sont tellement bigger than life, comme disent les Américains, qu'on ne peut pas faire autrement que d'essayer de les interroger par la fiction, parce qu'ils nous dépassent d'une certaine manière.
Et en même temps, un de vos personnages dit que les gens se consolent de leur malheur avec des histoires. Comment est-ce qu'on peut se consoler avec ces histoires-là ?
Parce que on a toujours fait ça, c'est-à-dire l'être humain a toujours fait ça. Moi, je me souviens quand j'étais petite en Orient, on me racontait des histoires qui étaient extrêmement tragiques pour m'endormir. On a toujours fait ça. Hansel et Gretel, c'est pas non plus très gai. S'identifier, se comparer, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement et les histoires permettent ça. Donc, et puis aussi comprendre et apprendre le monde, c'était une manière aussi de faire entrer les enfants dans le monde avec ces contes-là. Très effrayante, mais c'est le cas aussi avec les livres, c'est le cas avec les séries. Donc, oui, bien sûr.
Et vous qui êtes donc aussi scénariste, Negar Javadi, sur quel type de séries vous aimez travailler ? Justement des séries qui s'emparent du réel comme vous le faites comme romancière ou des séries qui visent plus le divertissement ?
Malheureusement, je n'ai pas souvent le choix, puisque en tant que scénariste, on travaille sur le boulot qu'on vous donne, un peu comme tout le monde. Hein. Donc, moi, parfois, j'initie des séries, et puis ça marche, parfois pas, parfois on m'appelle. À vrai dire, pour moi, écrire un scénario, et j'aimerais bien travailler sur un projet qui lie les deux. Parce qu'il y a forcément une dimension de divertissement dans une série. Ça ne peut pas être autrement. C'est comme ça. Sinon, ça serait un documentaire où il y a forcément une intrigue, il y a forcément des personnages, des enjeux, et on est rattrapé par l'enjeu des personnages et les intrigues et les personnages secondaires. Donc tout ça fait fiction. Donc tout ça fait divertissement, même si les sujets peuvent être extrêmement graves. D'ailleurs, il y a plein de séries comme Homeland, par exemple, qui parle de terrorisme, qui parle de la guerre en Irak, et pourtant c'est un divertissement. Donc ça serait vraiment le projet parfait, si on arrivait à faire ça. Bah, sinon, pour moi, écrire des scénarios, c'est toujours écrire. Donc, je prends toujours un plaisir vraiment fou à écrire, même si ça parle pas du monde, même si ce n'est que du divertissement. C'est très bien.
Alors, je reviens à la mère de Benjamin, puisque c'est une femme qui a travaillé dans le cinéma. Elle était monteuse à l'époque où il y avait encore des pellicules. Et elle parle d'Alice Guy. Alice Guy, qui a été la première réalisatrice femme au monde, qu'aujourd'hui on a oublié, même si elle a été un peu redécouverte grâce à un livre, entre autres. Ça vous tenait donc à cœur de rappeler son existence, Negar Javadi ?
Mais totalement, d'autant que Alice Guy, c'est quand même une des premières femmes à avoir fait de la fiction. C'est quand même une femme qui a dirigé Gaumont, qui est partie aux États-Unis, qui a eu son rêve américain, qui avait un studio là-bas, qui a fait des centaines et des centaines de films là-bas. Donc elle a eu une carrière absolument incroyable, bien plus incroyable que les noms de son époque masculin, dont on parle très souvent, Franju, Méliès, les Frères Lumière, voilà, tous ces noms-là, on les connaît. Et Alice Guy, eh ben, elle est partie un peu dans les bas-fonds de l'histoire et on l'a oubliée. Pourtant, elle a fait beaucoup plus que ces noms-là. Donc, oui, il fallait la repêcher, lui donner une visibilité, la faire connaître, autant que ce qu'elle fait est assez incroyable.
Et est-ce que cet oubli est lié à la place des femmes qui restent minoritaires dans ce milieu, selon vous ?
À la place des femmes, je pense tout court, elles sont en effet minoritaires dans ce milieu et on peut le voir parce que quand même le monde du cinéma et de l'audiovisuel est extrêmement visible. On connaît beaucoup, on sait beaucoup de choses et on en parle beaucoup de ce monde. Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites dessus. Mais c'est un peu pareil dans tous les mondes, j'allais dire, dans les autres, peut-être dans la science, peut-être dans la médecine, dans la musique aussi. Il y a eu énormément de femmes musiciennes dont on ne connaît pas l'existence, dans la peinture. Donc c'est un peu l'histoire des femmes aussi, d'avoir été oubliées, rendues invisibles et qu'il faut aller chercher pour les rendre plus visibles.
Maintenant. Et c'est le cas aussi dans le milieu littéraire, selon vous ?
Ah, totalement. C'est exactement le cas dans le milieu littéraire aussi. Il y a énormément de femmes qui ont écrit et qui n'ont pas eu la chance ou qu'on a oublié, qu'on a mis de côté, ou on n'a pas voulu publier. Il y en a certaines qui sont très célèbres, mais on connaît toujours les mêmes. Virginia Woolf, Marguerite Yourcenar, mais il y en a beaucoup, beaucoup d'autres derrière.
À la fin de votre roman, Negar Djawadi, ce qui s'est passé, ce qu'on vient de lire, est déjà devenu une fiction, ce qui est une formidable mise en abîme, puisque ce que vous avez inventé, que vous présentez comme réel, redevient à la fois une fiction. Bref, est-ce que vous, si on vous donnait les moyens, vous auriez envie de faire l'adaptation de ce roman ?
Écoutez, je... Pas maintenant.
Pourquoi ?
Pas maintenant, parce que je pense... Enfin, le livre est sorti et c'était déjà un événement, finir le livre... Éditer le livre pendant le confinement, ce qui était assez difficile, assez compliqué quand même. Et puis la sortie d'un livre, c'est déjà un événement et je suis pas dans le prochain événement qui serait l'adaptation de ce livre en film ou en série. Donc pour l'instant, je suis là, curieuse de voir ce que les gens pensent de ce livre, est-ce qu'ils l'ont lu ou pas. Donc
je
suis à ce stade-là.
Pas maintenant, mais non. Pourquoi pas d'ici à quelques mois. En plus, j'imagine que quand on est scénariste, on ne peut pas s'empêcher en écrivant, même s'il s'agit d'un roman, peut-être d'utiliser un certain nombre de techniques du scénario pour capter le lecteur et du coup, voilà, vous projeter un peu quand même dans une étape suivante.
Indéniablement, il y a des techniques que j'ai utilisées parce qu'en effet, le scénario est quand même assez technique puisqu'il faut tenir beaucoup de choses. En fait, il faut réfléchir à beaucoup de choses. Il y a des intrigues, il y a des personnages, surtout l'écriture d'une série. Il y a énormément de paramètres à gérer en même temps. Donc, bien sûr, il y a quand même énormément de personnages dans ce livre. Donc, j'ai utilisé quelques techniques pour pouvoir le tenir ensemble et ne pas les perdre, ni moi, ni le lecteur d'ailleurs. Et oui, j'ai pas pensé vraiment, parce que là, en fait, en écrivant ce roman, je rentre dans la tête des personnages. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas très cinématographique, qui n'est pas très série. Et d'ailleurs, j'aurais pu écrire cette histoire-là telle qu'elle peut-être pour une série. Mais j'ai choisi le roman parce que j'avais envie de rentrer dans la tête des personnages et de voir ce que les personnages pensent, en fait, de cette ville, comment ils appréhendent les choses et donner... Ils ont une image qu'ils donnent aux autres. Ils sont le personnage même parfois des autres. Ce qui est le cas, par exemple, de la policière Sam, qui devient le personnage du film de Camille. Ce qui est le cas de cet adolescent qui est trouvé mort, qui est un peu le personnage du film qui se fait Benjamin Grossman. Donc, pour pouvoir faire ça, je devais passer par le roman, je veux pas passer par le scénario. Donc, je l'ai pas pensé vraiment comme un scénario. J'ai utilisé des techniques pour pouvoir tenir tout ce petit monde ensemble, mais je suis pas encore à l'étape de scénario dans ma tête.
On verra. Merci beaucoup,
merci.
Negar Djawadi, d'être venu nous parler de ce roman, puisque c'est aussi l'éloge de la fiction et la puissance de la littérature qui traverse ce livre. Arène, publié aux éditions Liana Levy.
Merci.
Littérature sans frontières.
Vous pouvez réécouter cette émission sur le site rfi.fr en cliquant sur l'onglet « Podcast ». Et pour ne manquer aucun numéro de votre magazine, vous pouvez vous abonner à Littérature sans frontières dans votre application préférée et nous laisser un commentaire.